Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Pierrot et la Meji Chimbila. Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. Au total, 20 personnes ont été tuées vendredi dernier par des miliciens de la Force Patriotique et Intégrationniste du Congo, FPIC, dans le village Babukela, au sud du territoire du Rumu, en Ituri. Parmi les victimes figurent 9 hommes, ainsi que des femmes et des enfants, selon les bilans revus à la hausse ce samedi. Prévu pour ce samedi, le déplacement de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, à Lubumbashi a été annulé d'après l'annonce qui a été faite par les membres du comité organisateur de son accueil, qui disent ignorer les raisons de cette annulation. Jean Bosco Abibou, du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, est notre invité. Il viendra nous parler de la sensibilisation la semaine dernière à Rubaya Centre, dans les territoires de Masisi, des policiers sur les droits de l'homme. Bienvenue à toutes et à tous. À Ituri, plus de 20 morts, dont 11 corps découverts ce matin. C'est le bilan revu à la hausse de l'attaque de vendredi dernier des miliciens de la Force Patriotique et Intégrationniste du Congo, FPIC, dans le village Babukela, au sud du territoire du Rumu. Parmi les victimes figurent 9 hommes, ainsi que des femmes et des enfants. Des sources sécuritaires dans la région rapportent que l'armée poursuit des opérations dans la région pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Toutefois, et selon les sources sécuritaires, ce bilan pourrait encore s'alourdir car plusieurs autres blessés n'ont pas encore été retrouvés. Les points avec Ezekiel Mouzalia.
D'après des sources sécuritaires dans la région, 11 corps ont été retrouvés ce samedi matin après l'incursion la veille des miliciens de la Force Patriotique et Intégrationniste du Congo, FPIC. Selon le chef de la chefferie de Bahema Dirumu, joint au téléphone, ces miliciens étaient habillés en tenue militaire et armés de fusils de guerre ainsi que d'armes blanches. Plusieurs corps ont été amenés dans la brousse. Les rares victimes retrouvées ont été acheminées à Rwampara, dans le groupement Tseré, un centre situé à 12 km du lieu du drame. Batabura Mugeni, le chef du groupement Tseré, rapporte que parmi ces victimes, 9 sont des hommes dont certains ont été décapités à la machette. Les autres victimes ont été fusillées sur les champs et acheminées dans une structure sanitaire de la place. À cela s'ajoutent 2 femmes tuées et un enfant de moins de 5 ans qui était en fuite. Contacté par Radio Okapi, les porte-parole des FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, précise que l'ordre a été rétabli dans la zone après l'intervention des forces de l'ordre. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, 35 éléments du groupe armé NDC Renové El Bouira se sont rendus au FARDC hier vendredi à Mushaki dans le territoire de Masisi. Ils se sont rendus avec une dizaine d'armes AK-47 et armes d'appui, a affirmé le porte-parole des opérations Sokola 2. C'était en présence du commandant secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu, le général de brigade Moyo Lumbu Evariste. Pour Major Ndike Kaiko, ces éléments seront cantonnés au centre de transit de Rumangabo où ils vont attendre le processus DDR. Le président de ce mouvement politique, Désiré Ngabo, plaide pour une prise en charge correcte de ses rendus afin de permettre aux autres combattants qui traînent les pas de se rendre. Il explique au micro de Bernardine Diambou.
Comme on l'avait promis, car on avait donné la première vague de nos rendus à Kashuga, aujourd'hui nous venons encore une fois de plus de manifester notre volonté de rendre les armes et participer à la pacification de l'Est du pays et au développement. Ces éléments sont venus dans le territoire de Masisi. Le temps de rester dans la brousse est révolu. J'appelle à tous les groupes armés de pouvoir quitter la brousse et venir rendre les armes pour qu'ensemble nous puissions participer à la pacification de l'Est du pays. Il y a d'autres éléments qui sont encore dans la brousse. Vous savez, il y a un petit problème qui se pose au niveau de Rumangabo, c'est ce qui concerne l'encadrement des rendus. Nous venons d'amener une trentaine, il y a d'autres qui sont encore là, en attendant que le gouvernement puisse prendre leur prise en charge à main. Lorsque le gouvernement sera prêt pour prendre leur prise en charge à main, nous aurons à amener d'autres rendus.
Rappelons que plus de 600 éléments du groupe armé NDC rénové El Bouira se sont déjà rendus au FARDC avec plus de 250 armes, a indiqué le porte-parole des opérations Sokola D, Ndike Kaiko. Le bourgmestre de Kananga au Kasaï central appelle le tribunal pour enfants à rendre disponible la loi interdisant aux communes de signer les autorisations parentales pour le voyage des enfants. Il réagit ainsi après que le président de cette instance a indiqué sur nos antennes que ces documents ne doivent plus être délivrés dans les municipalités, indiquant tout de même à tout de même avoir décidé de sursoir la délivrance de ce document. Raphaël Kassonga-Bilolo estime que les bourgmestres doivent être saisis officiellement pour que tout le monde soit éclairé sur cette nouvelle disposition. Il est dit au micro de François Kadima.
Le communiqué n'a pas qualité d'une loi, c'est pas une loi. J'ai suivi sur vos antennes qu'il y aurait une révisitation de la loi donnant cette qualité-là au président du tribunal pour enfants afin de pouvoir délivrer les autorisations de sortie. C'est vrai, s'il y a une loi dans ce sens, moi je crois pour ma part qu'il faudra que le président du tribunal nous saisisse officiellement en disponibilisant, même en vulgarisant cette loi, de sorte que l'on puisse se rétracter par rapport à ça. Mais depuis que cette rumeur a couru, à la commune de Kananga, on se réserve un tout petit peu, mais sans avoir un soubassement. Donc je demande avec humilité au président du tribunal pour enfants, s'il y a une loi dans ce sens, qu'il fasse un effort, de sorte que nous, les bourgmestres de communes, on va baisser pavillon. Lorsque nous avons été nommés comme bourgmestres de communes, nous avons trouvé nos prédécesseurs en train de délivrer ces documents-là. Donc, depuis là, jusqu'à cet instant, en tout cas, je n'ai pas vu personnellement un texte qui va au-delà ou en contradiction avec ce qui était en train d'être fait par nos prédécesseurs.
19h à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, 19h06, bien sûr. Poursuivons ce journal. Avec cette information, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, ne se rendra pas ce samedi à Lubumbashi. L'annonce a été faite par les membres du comité organisateur de son accueil aux milliers de personnes qui étaient mobilisées pour cette fin. D'après le député national Félix Kabangé, jusqu'à présent, il ignore les raisons pour lesquelles Joseph Kabila n'a pas été autorisé à effectuer ses voyages. Il prend ainsi à témoin la communauté nationale et internationale sur ce qui vient de se passer. Le député Félix Kabangé l'a dit à Jean Gandou.
Nous pouvons vous dire qu'officiellement, on ne nous a donné aucune raison. Nous avons constaté seulement qu'on a autorisé à un moment que les avions qui devaient le transporter, lui et sa délégation, on a autorisé que ces avions puissent décoller de Kinshasa, mais sans le sénateur à vie Joseph Kabila Kabangé à bord. Ça, c'est l'information qui nous est tombée comme un coup de foudre. La population à qui nous avons voulu expliquer cela n'a pas voulu. Elle nous a demandé d'aller à l'aéroport parce qu'elle croyait qu'il allait finir par venir. Et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il n'est pas arrivé. Et elle a décidé, parce qu'il était question que nous marchions avec lui, finalement, nous avons fait les 11 kilomètres qu'il devait faire. Nous les avons faits avec la population, juste pour montrer que la population tenait à l'accueillir. Et cette marche a été baptisée la marche de la résistance, parce que la population a dit qu'elle va continuer à résister, elle va continuer à marcher jusqu'à ce que Joseph Kabila Kabangé puisse arriver à Lubumbashi.
Et quelle est la position du comité organisateur qui a mobilisé des milliers et des milliers de personnes pour l'accueillir?
Bon, d'abord, la première chose, c'est la déception, parce que on avait tout organisé pour que la ville de Lubumbashi puisse vivre.
Interrogé par actualité.cd, François Zekouye, député PPRD, a déclaré, je cite, « Je crois que c'est une bonne chose qu'ils ne soient pas partis aujourd'hui. Selon mes sources d'information, c'est pour une raison noble. » Fin des citations. Selon lui, des contacts sont rétablis entre FCC et CACH au plus haut niveau. Il doit avoir un entretien important pour décrisper la situation. Le président honoraire va partir à Lubumbashi une autre fois. Les obligations d'État sont plus importantes que les voyages privés, a-t-il ajouté. Pétition contre le bureau de l'Assemblée nationale. Une cinquantaine de députés accompagnés d'une foule de militants de l'UDPS, AFDCA, MLC, Ensemble pour la République et tant d'autres ont envahi ce samedi le palais du peuple pour exiger la destitution du bureau Mabunda. De 10h à 16h, ces députés n'ont pas réussi à déposer leur pétition qui, selon eux, aurait déjà réuni plus de 260 signatures, y compris de plusieurs parlementaires du FCC. En effet, tous les services de l'Assemblée nationale restaient fermés ce samedi, y compris les services des courriers fermés depuis maintenant plus de 2 semaines. Ce qui pousse les pétitionnaires à dénoncer la prise en otage des services publics de l'État par une famille politique. Michel Kifindangoy.
Dénonçant la fermeture des services courriers de l'Assemblée nationale, le député André Mbata de l'UDPS dénonce ce qu'il qualifie de délinquance au sommet de leur institution. André Mbata.
On vient de faire appel à un huissier de justice et dès que la pétition sera déposée, il faudra compter 72 heures. Et comme tous les membres du bureau sont mis en cause, la séance devra être présidée par le doyen d'âge.
Du côté Lamouka, l'Ensemble pour la République s'est dit déterminé à faire tomber le bureau Mabunda. Christophe Lutundula.
L'Ensemble pour la République est la première victime de la mauvaise gouvernance de l'Assemblée nationale. Rappelez-vous, toutes les initiatives que nous avons prises, notamment la loi Sini, tout cela vient d'Ensemble pour la République, mais qui sont bloquées jusqu'à aujourd'hui.
Plusieurs autres députés du FCC, signateurs de cette pétition, justifient leur choix par le souci du peuple congolais. Futa.
Le pêcheur, le jardinier qui est là, ne connaît ni FCC ni cash. Il veut qu'il y ait des politiques qui améliorent leur quotidien. Ce clivage qui n'est pas propice au développement, je me suis dit qu'il était important que nous, élus, défenseurs de la population, puissions aussi nous assumer.
Ayant déposé leur pétition entre les mains d'un huissier de la justice, les députés ont attendu jusqu'à 16 heures pour remettre la même pétition entre les mains du secrétaire général de l'Assemblée nationale.
En réaction, le président du groupe parlementaire PPRD allié estime que la démarche de leurs collègues est déjà un échec et le bureau Mabunda ne tombera jamais et nous le suivrons dans nos prochaines éditions. La province du Kasaï oriental doit prendre 3 arrêtés pour réguler le secteur de l'eau, dont celui pouvant attirer à d'autres opérateurs d'investir dans ce secteur afin d'améliorer l'accès de cette denrée à la population. Cette disposition a été évoquée au cours de l'atelier de vulgarisation de la loi numéro 015/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau et ses mesures d'application adoptées au Conseil des ministres au niveau national. Au cours de ces travaux financés par la coopération allemande GIZ, plus de 10 mesures d'application de la loi relative à l'eau ont été vulgarisés par les délégués du ministère des Ressources hydrauliques auprès des entreprises de distribution d'eau au Kasaï oriental, des acteurs de la société civile et les membres du gouvernement provincial. Lievin Bouyamba, ministre provincial de Mines, revient sur quelques dispositions qui seront prises par la province du Kasaï oriental. Il est au micro de Esther Ndalafina.
La mise sur pied d'une régie de service public de l'eau, un arrêté au niveau de la province aussi pour la détermination des limitations. Lorsque vous voulez par exemple aménager de l'eau, vous n'allez pas le faire vaille que vaille. Il faudrait qu'il y ait une instruction, c'est-à-dire que le gouverneur va prendre un arrêté. Il y a notamment comment gérer les relations entre les différents intervenants. Ici je parle par exemple des AZUREP, quelles vont être les relations avec le gouvernement provincial et les autres autorités au niveau local. Mais au total, la province aura 3 arrêtés à prendre et ici il faut signaler que avec le système qui est libéralisé, et nous sommes sûrs que nous aurons certainement des acteurs privés qui vont entrer et ensemble essayer de résoudre de temps soit peu ces problèmes. Mais pourquoi pas, même que les acteurs qui existent, si nous avons la régie de l'eau qui est une société nationale qui, grâce à ces innovations apportées, pourra réguler le secteur et par rapport à la compétitivité, il peut améliorer ses outils et être en mesure de pouvoir les servir mieux qu'avant cette population.
Célébration ce samedi 5 décembre de la Journée nationale de l'arbre. À Bandundouville, le Conseil de l'apostolat de laïcs catholiques du Congo CALCC de la paroisse Saint-Hippolyte en synergie avec l'ONG Solidarité aux femmes et enfants victimes de violences et discriminations a organisé une séance pour promouvoir l'importance de l'arbre dans la vie humaine et pour toute l'humanité. Cela s'est passé à l'esplanade de cette église catholique où une vingtaine d'arbres ont été plantés par les membres de ces structures, y compris le premier président de la cour d'appel du Kulu, Baudouin Kipaka, qui a pris part. À cette occasion, le président du CALCC, Robert Kitoko, a expliqué le vertu de l'arbre et sa sensibilité sur l'importance de planter des arbres. Irène Boma pour le reportage.
Profitant de cette journée du 5 décembre, journée nationale consacrée à l'arbre, le CALCC de la paroisse Saint-Hippolyte de Bandundu, en synergie avec l'ONG Sofert, s'est organisé pour expliquer et promouvoir l'importance de l'arbre dans la société humaine et l'humanité tout entière. À cette occasion, 27 jeunes arbres de différentes espèces ont été plantés à l'esplanade de cette paroisse par les membres de ces deux structures. Cela pour servir d'exemple et ça permettra aux chrétiens de Saint-Hippolyte d'être à l'abri de la chaleur lors de grands événements plus tard, a indiqué Robert Kitoko, président du CALCC. Tout en expliquant les vertus que possède l'arbre, Robert Kitoko appelle chacun à en planter au moins un par an.
L'arbre nous donne de l'ombrage. L'arbre enrichit l'homme par ses dérivés. L'arbre guérit l'homme parce que plusieurs médicaments sont fabriqués à base de l'arbre. Il stabilise les sols, il lutte contre les érosions et tant d'autres vertus. Nous demandons à toute la population de la ville de Bandundu de penser à planter au moins un arbre par an, surtout quand vous avez coupé quel pense à remplacer. Et même là où on n'a pas coupé, qu'on essaie de planter pour en ajouter.
Notez que l'arbre est aussi important dans la lutte contre les réchauffements climatiques, a mentionné Michel Moulwa qui a représenté la ministre provinciale de l'environnement du Kwilu à cette activité. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Visite de travail de l'inspecteur principal provincial de l'EPST Tanganyika 2 à Kongolo. Kongolo est à 350 km au nord-ouest de Kalemie. Une séance de travail qui a réuni 250 d'entre les responsables des différentes écoles, tant primaires que secondaires de la place. Objectif, améliorer la qualité de l'enseignement. Pour l'inspecteur principal provincial, l'amélioration de la qualité de l'enseignement commence par l'amélioration de la qualité de responsable scolaire. Je vous propose d'écouter l'adresse de Vidal Lumbala Kadiata au chef d'établissement dans les propos recueillis par François-Xavier Mibé.
Que nous puissions actuellement travailler pour la promotion du savoir de l'enfant, renforcer avec la pédagogie les inspecteurs qui sont derrière vous et même qui sont devant vous certaines histoires qui demandent à ce que vous, de votre côté, vous soyez réceptifs, affables aux conseils pour que nous puissions améliorer. Nous sommes à l'étape de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Est-ce qu'on peut améliorer la qualité de l'enseignement commençant par les élèves? C'est d'abord nous-mêmes. Si on n'a pas la volonté, il n'y a pas la chose bizarre que la sous-qualification volontaire. C'est vous, le chef d'établissement du primaire ou du secondaire, qui nous représentez, qui êtes à la tête de cette école-là. Il y a des adages vulgaires que nous négligeons. On dit tel père, hein, dis-moi telle école, tel directeur ou préfet aussi. Hein. C'est ce qu'on ne veut plus.
Actualité internationale.
Le 2 rivois, la présidentielle au Ghana signe un pacte de paix. L'objectif de ces pactes, éviter des violences électorales lors du scrutin de ce lundi 7 décembre. Cet accord intervient après des échanges parfois vifs entre les deux adversaires de longue date qui montrent par là même leur attachement à la démocratie. Ils sont arrivés ce vendredi l'un après l'autre au son des tambours dans un hôtel chic d'Accra pour signer un pacte de paix, le troisième depuis 2012. Venu en premier, John Dramani Mahama, principal candidat de l'opposition, a dit vouloir taire les tensions avec son rival sans pour autant oublier ses griefs. Le changement du fichier électoral et la récomposition de la commission électorale n'ont pas plu. Mais pour préserver l'image du Ghana, on est prêt à passer outre, a rappelé le président Nana Akufo-Addo, à condition que les médias jouent les jeux.
L'invité.
C'est Jean Bosco Abibou du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme qui nous parle de la quarantaine d'éléments de la police et du commissariat des Kibabi dans les territoires de Masisi qui ont été sensibilisés la semaine dernière à Rubaya Centre sur les droits de l'homme. La sensibilisation a été organisée et facilitée par le Bureau des droits de l'homme, la section protection de l'enfant et la police de la MONUSCO. Pourquoi cette sensibilisation? On écoute Jean Bosco Abibou au micro de Denise Mukesso.
Monsieur Abibou, pourquoi le choix de cette police spécialement?
Nous avons ciblé particulièrement la police nationale congolaise ici à Rubaya, d'autant plus que nous avons recueilli des informations sur les violations graves des droits de l'homme qui sont commises par les éléments de cette police. Nous avons donc estimé qu'il était nécessaire que nous puissions nous déployer à travers une mission ici à Rubaya, les sensibiliser sur le droit de l'homme, droit international humanitaire, la protection des droits des enfants et le maintien de l'ordre public. Donc, nous le faisons dans le cadre de l'appui que nous donnons au comité de suivi des violations des droits de l'homme attribuables à la PNC qui fonctionne au sein du commissariat provincial du Nord Kivu à Goma. Et c'est pour cela que nous sommes venus ici avec le commissaire provincial adjoint chargé de la police judiciaire dans le cadre même de la sensibilisation des pairs avec justement notre appui et notre accompagnement technique.
Et qu'est-ce que vous attendez de cette police?
Bien évidemment, nous attendons d'abord l'amélioration, c'est-à-dire que les membres de la police s'abstiennent de commettre les violations des droits de l'homme. Donc, dans notre évaluation à l'avenir, on verra s'il y a eu une diminution des cas de violations des droits de l'homme attribuables à la police nationale congolaise, ici à Rubaya. Ça, c'est un élément. Mais également, quand nous travaillons sur les questions de maintien de l'ordre, vous le savez pertinemment bien, la plupart des fois, la police fait un usage disproportionné des armes létales ou des armes à feu. Donc, nous sommes là pour les montrer les principes humanitaires, les sensibiliser sur le respect même des principes des Nations Unies en cas d'utilisation des armes létales. Quels sont les principes qui s'appliquent et surtout, dans la mesure du possible, s'abstenir d'utiliser les armes létales qui causent justement beaucoup de pertes en vie humaine, ce que nous appelons les violations des droits de l'homme par atteinte au droit à la vie.
Vous les avez aussi sensibilisés sur le droit international humanitaire. Nous sommes dans la zone des Roubaïa. Il y a beaucoup de conflits liés aux mines. Et la police, des fois, est impliquée aussi dans ces violations de plusieurs manières. Ces principes-là ne sont pas respectés. Comment vous allez faire le suivi de tout ce que vous avez fait comme sensibilisation auprès de cette police?
C'est vrai, il a été observé que, voilà, cette police-là, particulièrement celle de police des mines et hydrocarbures, est accusée de plusieurs violations des droits de l'homme. Et c'est pour ça que nous sommes là, justement, pour les sensibiliser surtout à respecter les droits de l'homme et les droits internationaux humanitaires. Pourquoi les droits internationaux humanitaires? C'est parce que ici, nous sommes aussi dans une zone de conflit. Il y a des conflits intercommunautaires. Ce qu'on appelle les conflits à caractère interne, qui relèvent du droit international humanitaire. Donc, nous sommes là, justement, pour les sensibiliser à ne pas violer en cas de conflit. Nous savons qu'il y a des conflits ici et que donc c'est l'occasion de démontrer quel doit être le comportement acceptable des membres de la police, des membres des services de sécurité.
Quel comportement que doit afficher un policier, par exemple, en cas de conflit interne?
Les principes humanitaires, c'est d'abord le principe de neutralité, le principe d'impartialité. Tout naturellement, notre police doit rester neutre et doit rester impartiale. Dans le cadre, justement, de cette mission, elle doit faire preuve d'impartialité. Ici, il y a des conflits intercommunautaires. Si la police se range, justement, en faveur d'une communauté au détriment d'une autre communauté, c'est qu'elle viole les principes de neutralité et d'impartialité. D'autres principes, par exemple, les principes de proportionnalité, les types d'armes qu'ils doivent utiliser, qui ne causent pas de souffrance à la population quand ils doivent s'interposer en cas de conflit, les principes de distinction, ils doivent savoir qui est combattant, qui n'est pas combattant. Ce sont là les principes qu'ils doivent respecter parce qu'ils ont l'obligation justement d'intervenir en cas de troubles à l'ordre public du fait des conflits qu'il y a dans la zone.
Voilà, Monsieur Jean Bosco Abibou, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Merci à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en onde de ce journal coordonné par Alain Rung. Julien Amouini a assuré la supervision. Quant à moi, Pierre Lamé, je vous dis merci. Mais n'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce journal sur www.radiocapi.net.